Les voies de service, mercredi 10 octobre 2018. Pro en compagnie aujourd'hui de Daniel Lachance.
Bonjour.
Et de Serge...
Bradet.
J'ai failli vous appeler Serge Bouchard. À chaque semaine, j'ai failli commettre le lapsus.
Bon.
J'ai eu un blanc. Alors, Serge Bradet, bonjour.
Allô.
Aujourd'hui, en première partie, moi, je vais vous parler de... des Autochtones qui vont avoir le droit de s'acheter, d'être propriétaires de leur maison dans une des réserves en Mauricie.
Ils n'ont pas le droit d'être propriétaires?
Non, ben et voyons. Je vais vous expliquer pourquoi dans l'article d'ailleurs. De votre côté, Serge, vous allez nous parler de quoi en première partie?
Oui, dans la revue itinéraire du 1er octobre, il y avait un article, il y a toujours un article intéressant sur les noms de rues. Alors, cette fois-ci, cette semaine-là, c'était la rue La Jeunesse et Fleury. Les rues de La Jeunesse Fleury, je vous parlais de ça.
Dans mon ancien quartier, c'est intéressant.
Oui, ah ouais.
Ben, antique, c'est ça. Et de votre côté, Daniel?
Bien, en première partie, je vais vous parler d'une femme orchestre que vous connaissez peut-être.
Vous savez toujours regarder le suspense. Merci beaucoup. Et je commence tout de suite avec ce fameux changement. Donc, le titre de l'article « Les Autochtones de Wemotassi pourront devenir propriétaires ». C'est un article de Ghislain Morissette qui est paru le 3 octobre dans le Journal de Montréal. C'est tout un changement qui s'amorce dans la communauté atikamekw de Wemotassi en Mauricie. Les Autochtones qui y habitent pourront enfin devenir propriétaires de leur maison, ce qui leur était impossible jusqu'à maintenant. Ce changement devrait régler en bonne partie le problème du manque d'habitation. Et donc, c'est ça, on se demandait pourquoi c'était pas possible avant. Toutes les habitations de la communauté appartiennent actuellement au même propriétaire, le conseil de bande, parce que la vieille loi sur les Indiens prévoyait que la reine devait fournir une habitation à tous les Autochtones vivant dans une réserve. Ça, c'était la vieille loi. Mm-hmm. Ensuite, la responsabilité a été transférée au conseil de bande, mais les conseils de bande manquent de financement et donc c'est impossible pour eux de fournir une habitation à tout le monde. Alors, il y a des gens qui quittent. Donc, les choses vont changer à Wemotassi. Martin Légaré, directeur de la Société d'épargne des Autochtones du Canada, la SEDAC, annonce que les gens pourront dorénavant donc devenir propriétaires. Et c'est un grand changement. Jusqu'à maintenant, on ne trouvait que des logements sociaux dans les réserves. C'était impossible d'obtenir du financement pour acheter une propriété parce que, évidemment, c'est difficile de convaincre un prêteur quand on sait que des biens situés sur une réserve sont insaisissables. Donc,
on
ne fait pas non plus avoir un prêt pour faire, par exemple, des améliorations sur la propriété puisqu'on n'est pas propriétaire de cette maison-là. Alors, c'est là que la SEDAC entre en jeu. Notre organisme va pouvoir prêter pour que des gens puissent réaliser leur rêve de devenir propriétaire grâce à des ententes particulières avec le conseil de bande. Fabien Paul est consultant en habitation pour la communauté de Wemotassi et il nous dit le programme mis en place offre plusieurs options. Il va permettre aux gens d'acquérir la résidence qu'ils louent actuellement, se construire une habitation neuve ou encore louer avec option d'achat. Donc, c'est vraiment intéressant. Et pour le chef François Néachit, ça va permettre aux gens de se responsabiliser face à leur habitation. Peut-être que c'est vrai que quand c'est pas... En tout cas, moi, je m'en suis rendu compte quand je suis devenue propriétaire, tout à coup, on a peur de tout ce qu'on peut... Tous les gestes qu'on pose peuvent avoir une conséquence à long terme sur la valeur de la propriété.
Ben oui.
Alors, c'est sûr que ça nous responsabilise. Mm-hmm. On l'a tous vécu, être locataire versus être propriétaire. En vendant des résidences, ça va alléger aussi le fardeau pour le conseil de bande, et surtout augmenter l'offre de logements. Donc, on va pouvoir en construire plus. D'anciens résidents, partis s'établir ailleurs, souvent par manque de logements, pensent d'ailleurs à revenir s'établir à Wemotassi. Une vingtaine de dossiers sont signés ou sur le point de l'être, selon Fabien Paul. Une trentaine de terrains pour de nouvelles constructions sont déjà prêts à être cédés par le conseil de bande et 40 autres pourraient l'être assez rapidement si la demande l'exige. Et c'est maintenant à vous, mon cher Daniel.
Oui.
Donc, quelle est cette femme orchestre dont vous nous avez fait miroiter
j'ai
l'identité?
J'ai dit ça parce que c'est écrit comme tel dans le titre
de l'article.
Et l'article s'intitule « Salomé Leclerc, femme orchestre ». Et c'est paru dans la presse plus du 9 octobre. La réalisation, les arrangements, l'écriture des paroles et de la musique, en plus de jouer de presque tous les instruments. Salomé Leclerc a tout fait sur « Les choses extérieures », son troisième disque qui arrive vendredi, 4 ans après le succès de « 27 fois l'aurore ». Donc, ce qu'on faut comprendre, c'est qu'elle a joué presque tous les instruments, pas en même temps.
Non, quand probablement
qu'elle
les a.
On voit l'image de femme orchestre, oui, c'est pas c'est ça du tout. Là. On a juste un instrument.
On avait la...
Et en plus de réaliser
ouais.
Et produire.
Je veux être sûr que vous suiviez. Bon. Donc, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, demande-t-on d'emblée à la très douée musicienne. Elle avoue cependant qu'elle ne pensait pas aller aussi loin dans l'autosuffisance sur le disque. Elle joue de la guitare, de la basse, de la batterie et du piano. Avec le recul, je me suis demandé pourquoi. Peut-être que j'ai fait ça pour protéger la chanteuse et pour que la guitariste prenne moins de place. Je voulais que la voix soit en avant pour que les gens, en écoutant l'album, aient l'impression que je leur chante presque dans l'oreille. S'il y a un débat qui a secoué le milieu de la musique québécoise depuis un an et demi, c'est bien celui de la parité. Elle l'a suivi de loin, mais on se demande si d'emmener aussi large était aussi une forme de démonstration. C'était un défi personnel à la base, mais c'est vrai que c'est venu me piquer. Inconsciemment, une partie de moi se disait « je vais y aller moi aussi, je suis capable de tout faire ». C'est drôle parce qu'officiellement, ce sont deux filles qui jouent sur le disque, Mélanie Belair au violon et moi. Cela dit, il y a eu bien des gars autour, très talentueux et très importants. Entre autres, Antoine Corriveau qui a assuré la direction artistique en se joignant au projet au moment où elle commençait à douter le plus. Et surtout, Sébastien Blais, mon petit, qui a fait la prise de son pendant qu'elle se promenait d'un instrument à l'autre. J'arrivais le matin en studio avec la chanson, on discutait et après on enregistrait les pistes. Son mandat était clair, tout enregistré, question de capter la magie qui donne de la couleur. Le nettoyage de trac, je ne veux pas de ça. Je veux qu'on entende la chaise craquer, les oiseaux qui chantent la fois où on a laissé la fenêtre ouverte.
Ça
ajoute
vrai
de la chaleur.
Oui,
absolument.
D'entendre les petits.
Et ça a été déjà reproché à certains disques à un moment donné. Je me souviens, dans les années 70, il y avait Jimmy Bertrand, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était très folk québécois ce qu'il faisait. Puis on entendait des bruits, à un moment donné, de chaises qui craquent ou de trucs comme ça. Puis effectivement, je trouvais que ça faisait...
On lui a reproché, vous dites.
Ouais,
ah,
ben, il y a
drôle.
Des personnes qui avaient souligné le fait que, il me semble, ça manquait de fini un peu. Mais non, effectivement, ça fait plus chaleureux, ça fait naturel. C'est comme si on était assis avec eux dans le salon, ils sont en train de nous jouer ça. Salomé Leclerc écrit des textes courts et poétiques, souvent inspirés de mots ou de phrases qu'elle a retenues au hasard d'une lecture ou d'une visite au musée. Mais ce sont surtout des atmosphères qu'elle aime installer autour de ses chansons atypiques. Il y a 2 ans, Salomé Leclerc a raconté dans le documentaire « La musique à tout prix » qu'elle s'était posé beaucoup de questions sur son avenir après la sortie de son disque « 27 fois l'aurore » en 2014. « Je m'étais demandé si j'allais devoir me trouver un deuxième emploi en parallèle. » C'est vers la sommellerie qu'elle se serait orientée, mais les choses ont débloqué et ça n'a pas été nécessaire, même si elle continue toujours à s'intéresser de près au vin.
Là, ça, peut-être c'est que ça l'aide même à écrire, hein, on ne sait pas.
Rien à voir avec la musique, finalement. Avec la sortie de ce 3e album, Salomé Leclerc se sent maintenant attendue et elle a l'impression d'être finalement sortie de la catégorie « relève ». Salomé Leclerc repartira bientôt en tournée et est bien contente de retourner sur scène entourée de 3 musiciens dont elle apprécie l'énergie. Donc, le titre de son nouvel album, c'est « Les choses extérieures » sur étiquette Audiogramme et ça va être en vente dès vendredi, le 12 octobre. Je te montrerai comment.
Son album Sous les arbres, oui, c'était Salomé Leclerc, Partir ensemble.
Merci beaucoup, et c'est ça parce qu'on n'a pas réussi à mettre la main sur le nouvel album. Mais
non, il va être disponible seulement vendredi.
Dès qu'il va être disponible, on pourra peut-être en écouter quelques accords. Et c'est maintenant à vous, Serge. Donc là, vous allez nous parler de...
Histoire de rue.
Oui, c'est ça, la toponymie de La Jeunesse et Fleury.
Et Fleury, oui. Alors, c'est dans l'itinéraire du 1er octobre, dans cette belle revue que j'achète, moi, régulièrement. Alors, c'est le camelot Maxime Plamondon et les camelots au métro Viau. Alors, La Jeunesse la Charmante, c'est comme ça qu'il appelle cette rue. Le nom La Jeunesse n'est pas celui d'une grande ferme ou d'un grand homme qui changea le cours de l'histoire. C'est plutôt celui d'une modeste famille d'aubergistes qui accueillait dans les années 1880 et même un peu avant les racketeurs du Montréal Racquet Club. Là, je vais la prononcer à l'anglaise, Montreal Racquet Club, parce que hein, c'est un club anglais.
Oui, oui, évidemment.
L'un des premiers groupes de raquettes sur neige. D'ailleurs, petit aparté, dans la deuxième partie de l'émission, je vais vous parler de la raquette comme arme de guerre.
OK, là, c'est intéressant parce que vous avez dit le Montreal Racquet Club, puis moi, je m'imaginais des gens qui jouaient au tennis. Puis là, non, on parlait de se promener en raquette.
La raquette sur neige, oui. Les La Jeunesse les accueillaient, donc, les membres de ce club, pour qu'ils puissent se réunir alors qu'ils avaient probablement bien besoin de se réchauffer. Se rassembler et échanger entre passionnés, une chose importante et parfois si négligée. D'ailleurs, si mon choix s'est arrêté sur cette rue, c'est le camelot qui parle, lorsqu'on m'a confié cette chronique, c'est bien parce que mes recherches ont mis en évidence cet aspect convivial, pas si courant dans l'histoire des rues. Pour le Montreal Racquet Club, petite information, c'est le plus ancien groupe de loisirs de raquettes sur neige à Montréal. Ces activités commencèrent progressivement dans les années 1940, quand même assez tard, en organisant des randonnées le samedi après-midi durant les mois d'hiver. D'abord formé d'une douzaine de membres, issus majoritairement de la haute société anglophone montréalaise, sa cote de popularité monta rapidement vers 1943. Cette effervescence apporta rapidement de la vie entre les murs des La Jeunesse, où tous ces sportifs célébraient après de longues randonnées.
Donc, c'est le lien entre la jeunesse, parce que La Jeunesse, c'est pas dans un quartier qui est typiquement anglophone, j'imagine, parce qu'il y avait beaucoup de neige là-bas, puis ils allaient faire de la raquette dans le coin des francophones, chez les La Jeunesse.
Ouais, ben, je pense que ça partait pas ça, du nord du d'Outremont ou de ce coin-là. Là.
C'est ça, mais la rue La Jeunesse, c'est pas du tout.
Ah, ben non, pas du tout, mais ils traversaient. Dans ce temps-là, écoutez, 1900.
Ah, oui, c'est ça.
Moi, ma mère est arrivée en ville avant la Deuxième Guerre mondiale, puis dans beaucoup de coins, dans ce coin-là, c'est des champs, là.
Donc, ils pouvaient se rendre là-bas pour chez le campagnard.
Alors, la suite de l'article, bombance et ripaille. Mais qu'est-ce que ce charabia farfelu? Ne vous en faites pas, je me suis penché sur la question. En réalité, bombance et ripaille signifie faire un repas de fête pendant lequel on s'amuse et surtout où l'on mange et boit de manière excessive. La rue La Jeunesse est perpendiculaire à la rue Fleury, nommée ainsi en l'honneur de David Fleury, un artiste qui participa à la décoration de l'église de la Visitation de la Bienheureuse Vierge Marie. Cette église-là, c'est la plus vieille église encore debout sur l'île de Montréal, l'un des premiers et des plus importants lieux de réunion au Québec, situé tout près de l'auberge rassembleuse. D'ailleurs, il est ironique de se dire que dans ce petit coin de ville, chaque époque connaît ses lieux de retrouvailles, que ce soit dans les années 1880, où l'on déchaussait ses raquettes pour boire un coup, boire un coup chez les La Jeunesse, ou en voyageant au temps médiéval en bonne compagnie devant une assiette de sanglier à l'auberge du Dragon Rouge. Je vous parle de cette fameuse auberge. C'est la première fois, j'ai vraiment une découverte pour moi quand j'ai lu ça.
Mais moi, j'en ai entendu parler. Je me demande si c'est l'auberge du Dragon Rouge que je connais. Ça me dit vaguement quelque chose. Ouais. C'est... En tout cas, ça, oui, je vous laisse parler.
Ça existe toujours.
On n'aperçoit plus la demeure de La Jeunesse dans le paysage d'Annecy. Par contre, on peut retrouver un lieu d'hospitalité d'un tout autre genre, appelé l'auberge du Dragon Rouge. Un restaurant à l'esprit médiéval. Nous y sommes accueillis par des personnages d'un autre temps, vivants et colorés, qui nous invitent, comme ils le disent si bien, à faire bombance et ripaille. On peut y vivre une expérience qui sort de l'ordinaire, que ce soit en dégustant en groupe un immense œuf de dragon. Bon, est-ce que c'est un vrai œuf de dragon? Là, bon.
Il y a quelque chose qui me dit que non.
Ouais, c'est ça, j'ai pas eu le long prix. Là. En buvant de la bière à la louche et à même une imposante marmite noire, ou simplement en profitant des festivités et de l'ambiance chaleureuse qui ferait honneur aux La Jeunesse.
Ah, ben merci beaucoup. Je me rappelle d'être allée justement faire bonbons, série paille à l'auberge du Dragon Rouge, définitivement, pour célébrer un anniversaire dans ma famille, mais quand j'étais jeune. Là.
Vous aviez aimé ça?
Oui, je me souviens que j'avais beaucoup aimé ça. Merci beaucoup, Serge. Daniel.
Oui. Un article que j'ai trouvé qui s'intitule « La musique entre nos deux oreilles ».
Ça a l'air, ben, ouais. Oui, c'est là qu'on la retrouve.
Habituellement,
des fois,
oui,
elle est dans notre cœur aussi.
Oui, aussi, mais on va voir qu'il y a un lien avec notre cerveau ici. Un article d'Alexandre Vigneault. « Siffler des mélodies est un langage pour certaines communautés. Écouter de la musique ravive les souvenirs de personnes atteintes d'Alzheimer. » On en a déjà parlé, même récemment.
C'est vrai.
« Et même le cosmos a son propre chant. » Le journaliste scientifique et musicien Michel Rochon creuse ces choses intrigantes et plusieurs autres dans « Le cerveau et la musique ». Neurologie, biologie cellulaire, anthropologie et même astrophysique. Quand Michel Rochon dit qu'il aborde la musique sous un angle scientifique, il ne laisse aucun territoire inexploré. Savant, son essai « Le cerveau et la musique » assurément. Compliqué, pas tant que ça. L'ancien journaliste, qui a notamment travaillé pour les émissions Découverte et La Semaine verte, est un excellent vulgarisateur et son bouquin n'est pas du genre à donner des mots de tête. En effet, si l'essentiel de son bouquin creuse la façon dont les sons se mêlent pour nous faire vibrer le ciboulot, il raconte aussi des choses étonnantes sur ce qui se passe sur Terre et dans l'univers. Saviez-vous, par exemple, que le cosmos émettait sa propre musique, que l'astrophysicienne Wanda Diaz-Merced décortique pour mieux comprendre les étoiles? J'avais entendu vaguement parler de ça, mais je pense que c'est Hubert Reeves qui avait parlé.
J'avais déjà entendu, mais je savais pas que ça pouvait nous aider à mieux comprendre les étoiles.
Je sais pas trop, moi non plus, le rapport, mais bon.
Peut-être que, oui, la musique a un lien avec leur mouvement.
Et ça sera peut-être expliqué un jour, mais pour le moment, c'est un peu vague. Et plus terre à terre, mais tout aussi intriguant, les habitants d'une île des Canaries tiennent des conversations dans un langage sifflé. Le silbo, qui est même enseigné à l'école. Ça, c'est la première fois que
j'ai entendu.
J'avais entendu parler de ça déjà, moi.
Un langage sifflé. Ça m'intrigue un peu, j'aimerais ça l'entendre.
Déjà, il faut être capable de bien siffler, parce que
j'imagine,
sinon...
Ça va pas bien. Hein.
Moi, j'aurais un accent, je pense.
Un défaut de langue. On a développé une oreille assez fine pour des raisons de survie, explique Michel Rochon en évoquant la nécessité de se protéger des prédateurs et de débusquer de la nourriture. Et la musique, elle, Madonna l'a déjà chanté dans sa chanson « Music » pour rassembler les gens. Il semble en effet que sa fonction première ait été de participer à la cohésion sociale. Bien avant de véritablement parler, nos ancêtres auraient émis des sons organisés, voire des chants, pour se donner le courage de se battre ou de chasser, et pour des jeux de séduction destinés à favoriser l'accouplement. Ça,
un
c'est
peu
venu
comme les
avec
oiseaux,
Marvin
finalement.
Gaye. Marvin Gaye puis Barry White, peut-être.
Oui, c'est
là.
Ça.
Le chant ainsi aurait précédé le langage. Donc, c'est important la musique, hein, finalement.
Ouais.
Mais si autant de scientifiques s'intéressent à la musique, c'est qu'elle constitue un modèle pour étudier le cerveau. Ce que des chercheurs font, notamment en utilisant l'imagerie par résonance magnétique, une technologie qui permet de voir en direct ce qui se passe lorsqu'on écoute un concerto subtilement tourné ou une chanson pop qui nous a marqués. Une trentaine de régions du cerveau sont impliquées dans l'écoute ou l'exécution de la musique, celle responsable du langage et de la motricité, notamment. Elle active aussi le système de récompense qui sécrète de la dopamine, neurotransmetteur entre autres associé au plaisir. Le fait que la musique soit inscrite à plusieurs endroits différents du cerveau explique pourquoi il est possible de raviver des souvenirs et même de revivifier temporairement des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer apathique. Il insiste, la pratique de la musique a vraiment un effet positif sur le cerveau qui, on le sait, a la capacité de se modifier au gré des expériences et des apprentissages. Les musiciens ont ainsi plus de neurones dans les régions.
Pas en ben, général, mais dans...
Après, c'est... c'est beau. Plus de neurones dans les régions associées à la perception et à l'interprétation musicale. C'est une vraie bonification de la matière grise, s'exclame Michel Rochon, qui ajoute que c'est une bonne réserve pour prévenir la dégénérescence cognitive. Mm-hmm. Il n'y a aucun effet négatif à jouer de la musique, que du bon. Donc, son livre s'intitule « Le cerveau et la musique », c'est aux éditions Multimonde, si ça vous intéresse. Et en passant, si jamais, il donne des conférences aussi.
Ah oui, ça doit être vraiment intéressant parce qu'il doit avoir des présentations et de nous montrer les couleurs
ouais,
du cerveau,
justement.
Je ne
sais pas exactement ce qu'il
selon...
fait, mais vous avez seulement à aller visiter sa page Facebook, donc c'est Michel Rochon.
Michel Rochon.
Pour connaître les dates des prochaines représentations.
Merci beaucoup.
Don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for. I don't play it. Lace Taylor's not his style, and even Lana Turner's smile is something he can't see. My baby don't care, oh no, oh, my baby just cares for me.
My baby just care for me par Olivia Ruiz.
Merci beaucoup, Maurice. Et vous avez quelque chose, vous allez faire travailler nos neurones, justement,
oui,
pour la dernière partie.
Oui, oui. Ben, en fait, c'est pas moi, c'est Lucette Bélanger, mm-hmm. qui est camelot au métro Pie-Neuf dans la revue Itinéraire. D'ailleurs, c'est pas
ouais, Camelot,
féminisé.
Ça...
parce que Camelot, ça aurait l'air
pas
drôle.
Ouais,
Camelot,
ouais.
Camelot, peut-être.
Camelot, ouais. Alors, essaye de me dire, de trouver qui a dit la citation, les citations que je vais vous lire.
On va essayer de deviner.
Il y a deux genres de personnes, ceux qui font le travail et ceux qui en prennent le crédit. Tentez d'être du premier groupe. il y a moins de compétition. Une grande dame qui a prononcé ça.
Plus qui prennent le crédit, autrement oui. dit. Ah, c'est une
grande,
femme.
Grande dame.
Seigneur.
De l'Asie. D'un pays super, super peuplé.
Gandhi.
Oui, Indira Gandhi.
Indira Gandhi, je cherchais son prénom.
Quand on vous demande si vous êtes capable de faire un travail, répondez « Bien sûr, je peux !» Puis débrouillez-vous pour y arriver.
Qui a dit ça? Je ne sais pas. Edison?
c'est un Américain.
Bon, j'étais dans le bon pays.
Il a été président des États-Unis, d'ailleurs.
Est-ce qu'il est encore vivant?
Benjamin Franklin?
Non. Il est mort. Après Franklin. Au début du 20e siècle. Ouais. Fin du...
vous allez voir, je connais vraiment pas bien mes présidents américains.
C'est le même nom que le président américain durant la Deuxième Guerre mondiale.
Roosevelt.
Qui était l'oncle de Franklin, je pense, son cousin. Ah. C'est apparenté.
C'est la même famille.
Oui. Si j'étais médecin, je prescrirais des vacances à tous les patients qui considèrent que leur travail est important.
Donc, c'est pas un médecin, puisqu'il dit non, si j'étais non, médecin.
C'est un monsieur. Là, j'avoue, c'est qui ce monsieur-là? C'est Bertrand Russell. C'est...
Un philosophe ou un linguiste, Bertrand? Ouais. Entre les deux parties de l'émission, on va chercher qui était Bertrand Russell. Mm-hmm. Ou si jamais vous savez, écrivez-nous, mais on ne vous a pas donné notre adresse, donc ça va être ça. Alors, c'est ce qui met fin à la première partie de cette émission. On vous revient après une courte pause. Merci beaucoup. Alors, on est de retour pour une deuxième partie de cette émission, Les Voies de service. Et avant la pause, on parlait de Bertrand Russell. C'était bien un philosophe britannique qui a vécu de 1872 à 1970, un ardent défenseur du désarmement nucléaire et opposant à la guerre du Vietnam, entre autres.
Ah,
et qui a dit aussi, qu'est-ce qu'il a dit déjà?
Que la guerre, des fois, on n'avait pas le choix, il fallait la faire pour...
Voilà, c'est ça. Et là-dessus, je vais maintenant vous parler de justement pas la guerre, mais une marche. On va annoncer de quoi on va parler. Émission-là. je suis accompagnée
c'est ce qui est
de deux personnes.
Ouais.
Alors, de mon côté, je vais donc vous parler dans cette deuxième partie d'une marche pour en mémoire aux femmes autochtones disparues et assassinées, qui sont, on le rappelle, des milliers. Mm-hmm. De votre côté, Daniel?
Je vais vous parler des adieux d'un chanteur très connu sur toute la planète.
Ah, mais pas des adieux parce qu'il est mort. Là. Vous n'allez pas
non,
me parler
non.
de Charles Aznavour.
Les adieux. Les adieux parce qu'il arrête de faire des tournées, tout simplement.
Il va nous faire en personne.
Oui, pendant
D'accord.
5 ans.
C'est ça, des longs adieux. Et de votre côté, Serge?
J'ai bien compris, j'ai droit à deux articles.
Oui, c'est à votre tour.
Alors, des raquettes comme armes de guerre.
Ah oui, donc ça sera pas ça va être les raquettes pour marcher aussi.
Les raquettes pour marcher.
Ah oui, d'accord.
Oui, pas la raquette à coup de
non,
raquette.
Non, c'est ça, on se pas de coup de raquette. Parce que même raquette si j'ai protection. Vraiment vu des gens en train de se donner des pneus.
Et saviez-vous que le maire de la Nouvelle-Orléans en 1820 voulait faire évader Napoléon de Sainte-Hélène?
Ah oui, puis ça n'a pas marché.
Ben non, il est mort avant.
Ah bon, j'ai bien hâte d'entendre parler de ça. Merci beaucoup. Et donc, je vais vous parler de cette marche. En fait, il y en a eu plusieurs marches. J'ai trouvé au moins deux articles, un sur le site de Radio-Canada, Radio-Canada, et un de Radio-Canada Manitoba, ici Manitoba. Donc, pour nous parler de cette marche, pour ne pas oublier les femmes autochtones disparues et assassinées. Donc, celui que je vais vous lire, c'est celui qui a été publié le jeudi 4 octobre sur le site web de Radio-Canada et signé Laurence Niozzi. Pour nous parler de plus de 300 personnes qui se sont rassemblées jeudi soir, donc jeudi de la semaine dernière, au centre-ville de Montréal, comme ailleurs au pays, donc comme on le soulignait, pour une veillée à la mémoire des milliers de femmes autochtones disparues et assassinées. On voyait des pancartes qui disaient « Jamais plus de sœurs volées »,« No more stolen sisters » en anglais, c'était, il y avait beaucoup de pancartes en anglais, évidemment. « Justice pour les femmes disparues et assassinées ». Donc, munis de ces pancartes et de chandelles, des manifestants se sont d'abord recueillis au square Cabot. J'ai encore pas résolu s'il fallait dire Cabot ou Cabot, ouais. Mais on va dire Cabot, je pense que c'est un anglophone. Rue Sainte-Catherine, puis on marchait un peu plus à l'est jusqu'au square Phillips. Et là, je pense qu'il faut dire square parce que c'est en français. Malgré des années de mobilisation et la création d'une enquête, non, pour vrai, on peut pas dire le carré Phillips, hein, c'est un anglophone, il faut dire le square. Mm-hmm. J'adore ça quand
faut
on
dire
dit un mot anglais
mais
pour éviter...
prononcer en français.
C'est ça, voilà. Okay. Malgré des années de mobilisation et la création d'une enquête nationale à la fin de 2015, la lumière tarde à se faire sur les milliers de femmes autochtones disparues et assassinées au cours des dernières années. Le livre n'est pas fermé, comme le soutient l'aînée Mohawk, Amelia Tekwatoni McGregor, encore secouée par la mort de Tiffany Morrison, une jeune femme de sa communauté, Kanawake, disparue il y a 12 ans. S'ils ne peuvent pas trouver celui qui l'a assassiné, alors elle représente toutes les autres qui disparaissent et il n'y aura jamais de fin à ce chagrin, nous dit Mme McGregor. Aujourd'hui encore, les femmes autochtones courent 3 fois plus de risques d'être victimes d'agressions sexuelles. Les femmes, les filles et les personnes bispirituelles autochtones continuent à être ciblées par des taux de violence ahurissants. On exige que tous les niveaux de gouvernement agissent. Ça, c'est Julie Michaud du Centre de lutte contre l'oppression des genres, l'organisme qui organisait l'événement en collaboration avec le projet Iskwiyu du Foyer pour femmes autochtones de Montréal, qui le demande. Le gouvernement pourrait mettre en place plusieurs mesures très concrètes, selon elle, à commencer par bonifier le système d'éducation, reconnaître les dommages de la colonisation et aussi sensibiliser davantage les policiers aux réalités autochtones. La marche en est à sa 13e année. C'est Bridget Tully qui a organisé la première marche en 2015 pour rendre hommage à sa mère Gladys qui avait été mortellement happée par un véhicule de la Sûreté du Québec en octobre 2001 dans la communauté algonquine de Kitigan-Zibi dans l'Outaouais. Et depuis, Bridget se bat pour rouvrir le dossier dans le cadre d'une enquête indépendante. Des marches ont par ailleurs lieu tous les ans le 4 octobre dans de nombreuses villes canadiennes, des maritimes jusque dans l'ouest du pays. À Montréal, la militante Mohawk Hélène Gabriel et la présidente de Femmes autochtones du Québec, Viviane Michel, ont chacune à leur tour pris la parole sur la scène du Square Cabot, où était accrochée une robe rouge, devenue symbole des femmes disparues et assassinées. Et dans un autre article, on nous explique le symbole de moi, j'ai honte d'avouer que je ne savais pas que c'était un symbole, la robe rouge. Ah. Et on nous explique pourquoi, c'est-à-dire que... La robe rouge, c'est en référence aux robes traditionnelles autochtones à clochettes qui sont destinées à guérir les esprits. Donc, c'est ça la robe rouge. C'est ce que symbolise. Donc, guérir l'esprit, c'est vraiment une bonne symbolique. Et donc, c'était cet article de Laurence Niozzi sur le site de Radio-Canada. Et donc, Daniel, vous allez nous parler d'un artiste qui quitte la scène.
Oui,
ben,
j'en avais parlé il y a quelques semaines, mais c'est parce que là, il est venu jouer à Montréal la semaine dernière.
Ah,
et c'est pour ça que je vous en reparle. Donc, les flamboyants, j'ai de misère à dire ça, ça c'est l'émotion. Les flamboyants adieux de Sir Elton John. Elton John était de passage à Montréal. L'article était paru, je pense, le 5 octobre, donc hier soir, ça veut dire qu'il était le 4 octobre à Montréal, dans le cadre de sa tournée d'adieu à la scène Farewell Yellow Brick Road, qui compte 300 dates sur les 5 continents.
Aïe aïe!
Donc il ne va pas faire ça en un an, j'imagine, le temps de se déplacer.
C'est ça. Donc, il y a le temps encore de changer d'idée.
Ouais, ouais.
Le mythique chanteur et compositeur britannique a ravi le Centre Bell, plein à craquer, de 17 815 spectateurs comblés. Sir Elton a offert tout un voyage à travers le temps au cours de ce concert de près de 2h30, pour lequel il a soigneusement choisi 24 de ses plus grands titres en carrière. Avec Farewell Yellow Brick Road, le chanteur et compositeur britannique de 71 ans revient à la source de son inspiration, le magicien d'Oz. le commandeur de l'Ordre de l'Empire britannique, donc la médaille MBA, MBE, Member British Empire, MBA. Ouais, MBE, ne s'est
oui,
pas fait...
Oui, parce que MBA, c'est autre
non,
chose.
Non, c'est bien, oui, c'est en administration.
J'imagine pas être monsieur...
Il n'y a pas
Sir,
vraiment le
Sir
look.
Sir Elton ouais, travaille
pas
dans
un look
bureau.
De... Non, pas vraiment. Donc, le commandeur de l'Ordre de l'Empire britannique ne s'est pas fait attendre, commençant son spectacle à 20h05 précisément avec Benny and the Jets. Tout en voix derrière son piano, Elton John était accompagné de 6 talentueux musiciens disposés sur 2 étages derrière le maître de cérémonie. Paré d'un collier de perles, d'un veston scintillant et de ses habituelles lunettes colorées, le mythique chanteur, opéré aux cordes vocales dans les années 80, a poussé la note sans mal tout au long de la soirée. Sir Elton n'aura pas été avare de confidences au cours de sa performance, s'adressant régulièrement au public, notamment pour rendre hommage à son complice de toujours, Bernie Taupin, qui a signé les paroles de ses plus grands succès et ainsi contribué aux 300 millions de disques vendus dans le monde.
Ça fait beaucoup de disques.
Ça fait beaucoup
300
de disques.
Millions.
Et je me souviens d'ailleurs quand Bernie Taupin avait décidé de laisser un peu Elton John de côté, une des rumeurs qui circulait, c'est qu'Elton John, souvent dans ses concerts, arrivait avec des costumes assez flyés et même un peu déplacés à un moment donné, déguisé en canard,
un
des choses comme ça.
Comme Don Cherry à...
Ah, pire que ça. Non, mais vraiment, là, je veux dire, un vrai costume de canard, comme à l'Halloween. Et je pense que c'est ça, Bernie Taupin, à un moment donné, qui écrivait ses chansons. Il avait complètement décroché une fois qu'en concert, il est arrivé assis au piano, déguisé en canard, pour jouer Your Song. Puis que lui, il considérait que c'était une des plus belles chansons qu'il avait écrites.
Il
regarde son
collègue.
Il trouvait
que ça dénigrait un peu le...
Il a fait comme, OK, ouais. Là, ça va faire. Fin de l'anecdote. Le premier frisson de la soirée s'est fait sentir lors de l'interprétation de Tiny Dancer. La chanson qui a fait vibrer l'amphithéâtre au complet est sans aucun doute Rocketman, qui s'est terminée par un impressionnant solo de piano, comme Sir Elton en a le secret, les yeux fermés. La virtuosité du musicien impressionne toujours autant, surtout lorsqu'il interprète des pièces comme Live On. Le public s'est d'ailleurs levé pour l'acclamer après ce tour de force musicale. Dans un registre plus personnel, le chanteur britannique a offert « Someone Saved My Life Tonight », la chanson la plus personnelle de « Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy », drôle de titre d'album, mais bon, dans laquelle il revient sur sa tentative de suicide. Son incontournable ballade « Candle in the Wind » était accompagnée d'une vidéo de Marilyn Monroe lors de sa toute dernière séance photo avec Bert Stern, filmée par David LaChapelle. Elton John avait réenregistré ce titre en 1997, voilà, à la suite de la mort tragique de Lady Di. Plus de 33 millions d'exemplaires se sont vendus et l'année suivante, le chanteur britannique se voyait anobli par la reine Elizabeth II pour sa contribution à la musique et à certaines œuvres de bienfaisance. Drôle de hasard, quand même.
Mm-hmm. Ça avait probablement contribué un petit peu.
Sir Elton n'a d'ailleurs pas manqué de souligner son engagement dans la lutte contre le sida avant de chanter « Believe », un superbe moment sur fond d'images d'archives de collecte de fonds. L'icône a enchaîné les succès pour clore la soirée, de « I'm Still Standing » à « Crocodile Rock » en passant par « Saturday Night's All Right for Fighting ». Le public est resté debout pour danser jusqu'au rappel, choisi sur mesure pour les adieux tout en émotion. Il y a eu d'abord « Your Song », une des plus belles ballades de l'artiste, puis celui-ci a tiré sa révérence en interprétant la superbe « Goodbye, Yellow Brick Road ». En espérant qu'au terme de ses 300 concerts en 2020, ça répond à votre question de tantôt.
Oui,
il devrait le faire sur 2 ans.
Quelques années.
Sir Elton aura peut-être changé d'idée. 10 spectacles ont déjà été ajoutés au Canada en 2019, dont 2 à Toronto. S'il revient à Montréal et que vous avez manqué ce spectacle, n'hésitez pas à aller lui faire vos au revoir. On espère toutefois que le niveau du son, beaucoup trop fort, sera quelque peu ajusté la prochaine fois, s'il y en a une.
Young to be singing the blues.
John, Goodbye Yellow Brick.
Ah, c'est vraiment une belle chanson. À chaque fois qu'on entend une chanson d'Elton John, je trouve qu'on la reconnaît, même si on se disait qu'on ne connaissait pas le titre, ce qui était mon cas. Et donc, c'est maintenant à vous, mon cher Serge, et vous allez nous parler de...
La raquette, j'avais déjà oublié. Les coups de raquette.
Oui.
C'est un article que j'ai trouvé dans la revue d'Histoire du Québec, Cap au Diamant, de l'automne 2003. Ça fait quelques... Elle a de l'âge, mais l'article est toujours intéressant. Toujours à propos, un article de Francis Bach. B-A-C-K, comme M. Bach. Mais je pense pas que ce soit la même famille.
Ça dépend du M. Bach.
Ouais, c'est ça,
on
ouais.
parlait
c'est
de Frédéric
Bach, ça. Ouais. Alors, en adoptant des Amérindiens l'usage de la raquette à neige, les colons français élargissent leur rayon d'action pendant la saison froide, et il pousse même l'audace jusqu'à mener des offensives hivernales contre des ennemis éloignés. Les autorités françaises sont conscientes de cet atout militaire, et elles surveillent la capacité des Canadiens à demeurer de bons raqueteurs, car elles craignent qu'ils ne deviennent efféminés.
C'est quoi le rapport?
À cause des raquettes?
Non, s'ils n'utilisent pas les raquettes, qu'ils deviennent efféminés parce qu'ils resteraient à la maison. Puis, En tout cas, moi je dis ce qui est écrit.
L'explication n'est pas forte, mais
ouais,
bon. Pas...
En 1644, Marie de l'Incarnation décrit les mocassins portés par les Amérindiens et elle ajoute cette phrase révélatrice. « Les Français n'en portent point d'autres l'hiver parce qu'on ne peut marcher sur la neige qu'avec des raquettes et pour cela, on ne peut se servir de souliers français. » Le témoignage de Marie de l'Incarnation prouve qu'à cette date, les colons français ont généralement adopté l'usage des raquettes pour se déplacer en hiver. Et connaissez-vous le mal des raquettes?
Le mal des raquettes? C'est comme le mal de mer? Ou
c'est on peut avoir mal au cœur.
Oui, c'est... Non, pas au cœur. plusieurs textes du régime français font allusion au mal de raquettes qui frappe les utilisateurs inexpérimentés. Au 19e siècle, Émile Petitot nous décrit ce mal comme une douleur qui se ressent en différentes parties des jambes ou des pieds, voire même aux hanches. Quel que soit le nerf lésé, il devient douloureux sur tout son trajet. On y éprouve des douleurs si lancinantes que l'on s'imaginerait volontiers avoir un os fracturé ou déboîté. Comme quand vous faites n'importe quel sport.
On parle de tendinite, finalement.
Ouais. Mais quand vous faites n'importe quel sport, vous avez des mots.
C'est
parce
ça, c'est des endroits qu'on n'est pas obligé habitué d'utiliser.
Ben, c'est ça,
donc
oui.
Voilà.
Donc, comme avantage militaire, en maîtrisant l'usage de la raquette, les colons sont en mesure d'entreprendre des offensives hivernales contre leurs ennemis. La première de ce genre a lieu en janvier de l'année 1666 et elle est dirigée contre les Iroquois. Ce commando est composé de miliciens canadiens et de soldats français, mais ces derniers ralentissent la marche à cause des raquettes dont ils n'étaient pas accoutumés de se servir, les Français, là. Il y avait des Canadiens et des Français. Cette offensive tournera au fiasco, mais elle impressionnera les Iroquois par son audace. À l'échec de 1666 succéderont des mises au point qui feront des soldats français rompus au pays, des miliciens canadiens et de leurs alliés amérindiens de redoutables combattants, en mesure de surprendre l'ennemi en plein cœur de l'hiver. Le raid mené contre le village de Deerfield au Massachusetts en février 1704 illustre bien le rôle primordial joué par les raquettes lors de cette attaque hivernale. À cette occasion, le commando franco-amérindien fait une cinquantaine de tués, environ 120 captifs, et brûle la moitié de ce bourg. Les milices anglaises des villages environnantes se lancent à la poursuite des assaillants, mais sans succès, car tel que l'explique un de leurs officiers, la neige avait environ 3 pieds d'épaisseur et elle était infranchissable sans l'aide de raquettes dont nous étions dépourvus. En effet, les colons de la Nouvelle-Angleterre sont longtemps restés réfractaires à l'usage de la raquette. Ainsi, en janvier de l'année 1704, le journal Boston News Letter annonce qu'après une abondante tempête de neige qui a frappé la ville, certains citoyens utilisent des raquettes, un fait qui ne s'était jamais vu auparavant. Et en 1709, l'épouse du gouverneur de la Nouvelle-France, Madame de Vaudreuil, s'inquiète du nombre croissant de chevaux dans la colonie. De ce phénomène, il résulterait que les jeunes hommes ne sont plus aussi vigoureux que du temps où ils étaient obligés d'aller à pied en été et en raquette en hiver. Peut-être là la notion d'efféminé qu'on a parlé tout à l'heure.
C'est ça.
Et par conséquent, on a de la peine à trouver des hommes qui puissent aller en partie en commando, c'est-à-dire pendant l'hiver. Alors pour résoudre ce problème, Madame de Vaudreuil suggère rien de moins que d'abattre une partie du cheptel chevalin, de saler la viande ainsi obtenue pour la vendre aux sauvages comme étant du bœuf, afin de pouvoir dédommager financièrement les habitants pour la perte de leurs chevaux. Alors voilà.
Merci beaucoup, Serge. Vous avez autre chose pour nous, Serge?
Oui. Dans la revue « Ça m'intéresse, histoire » de l'été 2018, donc cet été, ça s'intitule « L'histoire insensée quand le maire de la Nouvelle-Orléans voulait faire évader Napoléon. »
Ah oui, c'est ça.
Ouais.
C'est vrai, vous nous en avez
c'est que
parlé.
Bonaparte était très populaire en Amérique. Hein? Et c'était un héros. Et puis la France avait aidé la Révolution française. Il y avait un mouvement en France pour aider
la Révolution américaine. Oui,
et
c'est
ils
vrai.
Sont toujours restés très attachés. Et quand Napoléon est tombé, il a été envoyé une première fois à l'île d'Elbe. Mais ça, c'est dans la Méditerranée, c'était pas loin de la France. Et il est revenu pour une période qu'on appelle les 100 jours. Il a repris le pouvoir. Et là, il y a eu la fameuse bataille de Waterloo où il a perdu. Et là, on dit, on prend pas de chance, on l'envoie loin. À l'île Sainte-Hélène. C'est pas notre île Sainte-Hélène ici.
Non, c'est une autre île. C'est Sainte-Hélène.
Oui, c'est en plein Atlantique, au niveau de l'Afrique du Sud. Je pense que c'est à 3 heures d'avion d'Afrique du Sud. Là. C'est loin, là, tu sais.
Il ne pouvait pas nager jusqu'à la côte française.
Alors, vous avez donc le maire de la Nouvelle-Orléans de l'époque qui voulait faire évader Napoléon. La fin de l'année 1820, à l'angle de la rue Saint-Denis et de la rue de Chartres, en plein cœur de la Nouvelle-Orléans, un étrange manège intrigue les habitants. Nicolas Giraud, le propriétaire de cette belle maison créole, la transforme en un véritable palais. Après avoir doté sa bâtisse d'un escalier en colimaçon et d'une coupole, il y installe du mobilier de luxe et toute une panoplie de portraits et bustes de Napoléon Ier. Nicolas Giraud ne compte pas profiter lui-même de tout ce faste. Sa maison est destinée à accueillir un hôte de marque, Bonaparte en personne. Du moins, c'est ce qu'imagine ce Français installé à la Nouvelle-Orléans depuis les années 1770 et qui voue un culte à l'empereur. Nicolas Giraud n'est pas un plaisantin. Riche commerçant, il a été élu maire de la ville en 1812. Mais en septembre 1815, la nouvelle de l'exil de Napoléon affligea douloureusement M. Giraud, comme on l'appelle, raconte un article du New York Tribune en 1920. Un mois plus tard, Giraud démissionne officiellement pour se consacrer à ses affaires personnelles. Les politiciens qui...
Oui, pour des raisons personnelles,
raisons familiales,
oui, c'est ça.
Alors, sur l'île de Sainte-Hélène, Sir Hudson Lowe est chargé de surveiller Napoléon, installé dans une ferme à Longwood. Le Britannique est sur les nerfs. Le site a beau être perdu dans l'Atlantique, les tentatives imaginaires ou réelles pour libérer le précieux prisonnier se multiplient. Lowe garde un œil sur les États-Unis, où l'aigle est très populaire, surtout depuis leur entrée en guerre contre l'Angleterre en juin 1812. C'est d'ailleurs Bonaparte qui a vendu la Louisiane aux Américains, on oublie ça souvent, quelques années plus tôt. De plus, la défaite napoléonienne, de nombreux officiers français se sont installés au Nouveau Monde. Et c'est depuis l'embouchure du Mississippi qu'un flibustier français, Jean Lafitte, aurait tenté une expédition à Sainte-Hélène, finalement emportée par un cyclone. Au-delà des conditions climatiques rendant l'accès à l'île difficile, délivrer Napoléon relève du défi. 4000 soldats anglais sont positionnés près de Longwood.
Et, quand même!
Ouais, et 4 navires de guerre croisent autour de l'île.
Ouais, c'est difficile à traverser.
Ouais. Nicolas Giraud est persuadé de pouvoir libérer l'empereur des Français et balaie toutes ses embûches d'un revers de main. À la fin de l'année 1820, il trouve des alliés prêts à le suivre. Jean Lafitte, encore lui, et son frère Pierre, installés aux environs de la Nouvelle-Orléans, lui recommandent un autre pirate, Dominique Hue. Le plan est limpide. Il s'agissait simplement de faire un petit saut sur Sainte-Hélène, rien de moins, de maîtriser les gardes, 4000, d'éloigner l'empereur et de repartir en Amérique. Poursuit le New
Genre,
York Tribune.
Genre, mission impossible. Ouais. C'est là que ça a commencé.
Poursuit le New York Tribune. Au début de 1821, Nicolas Giraud achève les derniers préparatifs. Recrutement de l'équipage, aménagement de la maison. Il aurait même fait construire un bateau à voile très rapide, le Clipper, la Séraphine. Au début du mois de mai, tout est enfin prêt. Mais au même moment, un navire jette l'ancre à la Nouvelle-Orléans, porteur d'une terrible nouvelle. Napoléon vient de mourir à Sainte-Hélène le 5 mai. Pour Nicolas Giraud et ses comparses, il est trop tard. À la Nouvelle-Orléans, la maison Napoléon attend toujours son hôte de marque. Mm-hmm. Et j'aimerais ça pouvoir la visiter si je vais à la Nouvelle-Orléans.
Ben oui, est-ce qu'on ne dit pas si elle est ouverte au public?
Non.
Peut-être.
Mm-hmm. Ah, Chadouin?
Merci beaucoup, Serge.
Pourquoi ne viens-tu pas t'étendre comme au temps où nous étions enfants? Le bout du nez, froid, l'âme tendre, tout s'est envolé avec toi. Depuis sortent de ma bouche immense des milliers d'étoiles étiolées qui malgré moi se répandent et rampent comme les serpents des déserts mouillés. Mais que faire sinon que d'attendre la fin du froid du mois de décembre? Mais que faire sinon que d'attendre?
C'était Pierre Lapointe, étoile étiolée.
Ça donne le goût d'aller se coucher sous les couvertures et prendre un bon chocolat chaud. Je ne sais pas pourquoi. Il ne fait pas si froid que ça, pourtant, dehors. Et on a le temps pour encore quelques citations à nous faire deviner,
oui,
Serge.
À la demande générale,
semble-t-il. C'est ça, à la demande générale.
Mais là, je vais mettre ma revue un peu comme ça parce qu'il y a une réponse à Theodore Roosevelt que Maurice a dit, puis je suis persuadé qu'il l'a vu
à travers
la vie.
C'était l'indice,
la parenté de Roosevelt à Roosevelt.
D'accord, on va dire que
c'est... Non, c'est écrit trop petit, je suis désolé.
On va dire qu'on l'accepte.
On est vieux.
Alors, qui a dit « Le travail éloigne de nous trois grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. »
C'est pas moi, certain.
Un petit indice, c'est un philosophe célèbre.
Oui, parce que moi,
célèbre.
Je m'ennuie pas quand je travaille pas. Philosophe célèbre.
Jean-Paul Sartre.
Non, du 18e.
Ouais,
écoutez, c'est...
18e arrondissement. Ouais.
18e siècle.
Ah, okay, philosophe célèbre.
Voltaire. Et une que j'aime bien. Construire peut être le fruit d'un travail long et acharné. Détruire peut être l'œuvre d'une seule journée.
Oh, c'est tellement vrai, ça.
Pensez à la Deuxième Guerre mondiale, celui qui faisait le V comme ça, avec le gros cigare. Non, pas Adolf Hitler.
Churchill.
Winston
alors,
Churchill.
C'est avec la citation de M. Churchill que se termine l'émission de cette semaine. Merci beaucoup à Maurice Bolduc, à la mise en onde. Merci Daniel Lachance.
Merci, à la semaine prochaine.
Et moi aussi, Isabelle Falardeau, je vous dis à la semaine prochaine.
Plaisir.
Au revoir.